Chers frères et sœurs, en pensant à cette première phrase que nous avons dite au moment du sens du baptême, signe du salut offert par Dieu, je me suis rappelé que le christianisme a cette réputation d'être une religion du salut. Parce que Dieu sauve. Dieu nous sauve. Voilà bien une affirmation traditionnelle sur laquelle vous devez vous entendre. Le problème, c'est que de nos jours, c'est une expression qui, je trouve, n'a plus beaucoup de sens dans l'esprit de nos contemporains. Parce que pour être sauvé, encore faut-il être perdu. Et si vous interrogez vos contemporains, vos voisins, vous verrez qu'ils ont toutes les peines du monde à considérer qu'ils doivent être sauvés de quelque chose. Notez que ce n'est pas un mal nouveau. Déjà au XIXe siècle, Søren Kierkegaard faisait le même constat. Pour être sauvé, encore faut-il avoir conscience d'être perdu. Eh bien, cette conscience, c'est peut-être l'acte par lequel le croyant se distingue. C'est finalement poser un regard sur la vie, sur le monde, qui est singulièrement différent de celui que le commun des mortels pose. Et peut-être ce regard qui voit aussi les zones d'ombre est le premier élément, la première étape qui permet ensuite de pouvoir entrer dans une dynamique du salut. Toujours est-il que je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous la lecture du psaume 25. Psaume 25 qui évoque justement la question du Dieu sauveur. Et c'est à travers ce psaume 25 que je vais tâcher de vous faire entendre peut-être quelque chose qui nous aide à comprendre ce que signifie le salut de Dieu, ce que signifie le fait que Dieu sauve. Voici ce que dit ce psaume 25, et pour une fois, je lis la traduction œcuménique de la Bible. Seigneur, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi, ne me déçois pas. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu, mais sont déçus ceux qui sont traîtres avec leurs mains vides. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Et j'attends tous les jours. Seigneur, pense à la tendresse et à la fidélité que tu as montrées depuis toujours. Ne pense plus à mes péchés de jeunesse ni à mes fautes. Pense à moi dans ta fidélité, à cause de ta bonté, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles vers la justice. Et il enseigne son chemin aux humbles. Toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour ceux qui observent les clauses de son alliance. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute qui est si grande. Un homme craint-il le Seigneur? Celui-ci lui montre quel chemin choisir. Il passe des nuits heureuses. Et sa descendance possédera la terre. Le Seigneur se confie à ceux qui le craignent en leur faisant connaître son alliance. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, car il dégage mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, aie pitié, car je suis seul et malheureux. Mes angoisses m'envahissent, dégage-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Vois mes ennemis si nombreux. Vois leur haine et leur violence. Garde-moi en vie et délivre-moi. J'ai fait de toi mon refuge. Ne me déçois pas. Intégrité et droiture me préservent, car je t'attends. Ô Dieu, rachète Israël, délivre-le de toutes ses angoisses. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. En écho au baptême qui vient d'avoir lieu et à ce texte, ce psaume 25 que nous avons lu, je vous invite à ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 204 pour chanter ce cantique qui accompagne magnifiquement le parcours et le cheminement spirituel des plus jeunes. Cantique 204, les strophes 1 et 2. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors nous te prions pour que ce matin, elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'elle soit semence pour toute notre vie et nourriture sur notre route. Chers frères et sœurs, avouez quand même que cette expression « Dieu sauve » est un peu comme une sorte de tarte à la crème en théologie. Parce que moi, j'ai beau interroger les catéchumènes, il est rare quand même qu'ils arrivent à me répondre à cette question « Mais de quoi Dieu nous sauve-t-il au juste ?» Alors en général, il y en a toujours un qui dit « Dieu nous sauve de la mort ». Ce qui est l'une des réponses possibles, mais sinon il y a quand même un embarras assez gêné pour répondre à cette question. Et je trouve que c'est l'intérêt de ce psaume 25, c'est de nous apporter quelques éléments de réflexion, et je vous propose 5 réponses possibles que nous offre ce psaume 25, 5 réponses à la question, mais de quoi Dieu nous sauve-t-il au juste ? D'abord, et ce n'est pas le moindre, Dieu nous sauve de nous-mêmes. À travers l'appel du psalmiste, nous pouvons découvrir que le premier embarras de cet homme, c'est lui-même. Alors, dans cette traduction œcuménique dans la Bible, que je trouve intéressante par ailleurs, il y a juste les 2 premiers versets qui mériterait d'être traduit autrement. Au lieu d'y entendre le croyant dire à Dieu « ne me déçois pas », nous pouvons plutôt y entendre « que je ne sois pas couvert de honte ». Et c'est intéressant parce que là nous retrouvons le thème originel de la honte devant l'autre. C'est cet épisode d'Adam et Ève, bien sûr, qui inaugure le thème de la honte devant l'autre. La honte d'être soi, d'être nu devant l'autre. La honte, c'est l'identité brisée. C'est la blessure intime qui met une distance entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions tellement être. Et parce qu'il y a une distance entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions être, nous avons honte de nous. Car bien sûr, la distance, elle est toujours en termes d'infériorité. Nous sommes moins que ce que nous espérons. La tradition de l'Église a parlé de cela en termes de péché originel. Et je sais que sur ma gauche, c'est un terme qui fait frémir. Alors, cette notion de péché originel, effectivement, n'est pas foncièrement biblique. Elle a été comprise au fil des siècles comme cette faute commise par Adam qui se transmettrait biologiquement de génération en génération. Ce n'est pas tout à fait biblique, Il n'empêche que les textes bibliques, eux, nous montrent bien que le genre humain est aux prises avec un vrai problème d'identité, un vrai problème d'image de soi, qui se dit soit par la honte, soit par le péché, qui quand même est un mot de la Bible. Et c'est ce que le psalmiste appelle ici les péchés de la jeunesse. C'est le fait que nous ne sommes que rarement satisfaits de nous-mêmes. Que Jacob, ça ne lui convient pas son statut de second. Déjà, nous savons qu'avec Caïn et Abel, l'affaire n'avait pas été fameuse. Ce problème d'identité, cette honte devant l'autre, peut être le fait de véritables fautes que nous avons commises. Et le fait d'avoir fauté suffit à nous rendre honteux devant l'autre. Mais cela peut être aussi le fait de fautes qui ne nous appartiennent pas, en fait, ou qui, aux yeux de Dieu, ne sont pas véritablement des fautes. La honte de quelques kilos en trop, la honte d'oreilles décollées, mais aussi la honte de goûts musicaux qui ne correspondent pas à l'air du temps, la honte d'un choix politique pas très correct pour la majorité, la honte de convictions religieuses quand on est dans un environnement plutôt athée. Bref, tout un tas de hontes qui ne sont que des jugements à la petite semaine portés par une foule assoiffée de conformisme. Avoir honte de soi, comme cela est fréquent. Eh bien, ça, c'est quelque chose que Dieu assume. C'est peut-être certainement le premier salut qu'il peut nous offrir, et ça se fait par la dynamique du pardon, c'est ce que nous voyons au verset 11, qui restaure l'estime de soi, qui peut nous aider à dépasser les images peu glorieuses que nous nous sommes fabriquées de nous ou que d'autres nous ont infligées. Ici, le pardon est compris comme le travail que Dieu accomplit auprès de nous pour nous aider à dépasser aussi bien nos fautes que nos manquements, nos bassesses, toutes ces choses dont on n'est pas très fier, que toutes nos singularités, nos anticonformismes. Oui, Dieu nous sauve en ressuscitant notre individualité, en nous autorisant à être ce que nous sommes. Je citais tout à l'heure Kierkegaard. Kierkegaard a été le champion de l'individu, disant que l'individu, c'est ce qui intéresse Dieu au premier plan. Il ne le disait pas tout à fait comme ça, mais je ne trahis pas son intuition. Au fond, ce que Dieu fait, c'est de relever notre identité en nous instituant en tant qu'individu contre vents et marées. Plus à avoir peur de la crainte du jugement de l'autre. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure au moment du baptême, celui qui croit en la parole de Dieu ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Cela signifie que tous les petits jugements comme cela que l'on se balance à la figure, cela ne tient pas au regard de l'identité que Dieu nous offre. Plus besoin de se fondre dans la masse pour ne pas attirer sur soi des reproches. On n'a plus besoin de devenir transparent à soi-même. On n'a plus besoin de jouer au caméléon. C'est par l'épanouissement de notre individualité que passe notre salut. C'est plutôt heureux dans ce genre de communauté où les individualités sont fortes. À proximité de ce salut de nous en tant qu'individus, le psalmiste nous révèle que Dieu nous sauve aussi, c'est le deuxième aspect, de bien des maisons de servitude. Le deuxième aspect, c'est Dieu qui nous sauve de nos aliénations, de ce qui nous emprisonne. Lorsqu'il demande qu'on lui sorte les pieds du filet, lorsqu'il demande à Dieu d'être délivré, le croyant du psaume 25 fait état de toutes ces situations qui nous lient, qui nous ligotent, qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Et c'est bien sûr le grand thème de la sortie d'Égypte qui est repris ici. Dieu qui fait sortir son peuple du pays de servitude, Dieu qui fait sortir son peuple de l'esclavage pour le rendre libre à tous égards. Ce motif de la sortie d'Égypte a un aspect malheureux, c'est qu'il peut nous faire penser que nous ne sommes prisonniers que si nous sommes véritablement dans une sorte de cachot, que si nous sommes dans une prison au sens physique du terme. Mais l'image du filet qui retient nos pieds nous rend attentifs au fait que nos enfermements peuvent être d'un autre ordre et que nos prisons n'ont pas forcément des barreaux très matériels. Aborder cette question de la libération à l'égard de l'aliénation, un 4 juillet, passe nécessairement par le souvenir de la geste de quelques insurgés qui, dans cet État, ce très bel État de Virginie, signèrent une déclaration d'indépendance. Pour ces hommes-là, il ne s'agissait pas de s'échapper du Nouveau Monde, de fuir et de prendre un bateau vers ailleurs. Il s'agissait de rejeter la tyrannie du roi de Grande-Bretagne, dont l'histoire était jugée par eux comme une série d'injustices et d'usurpations répétées. Et au fond, voyez-vous, déclarer l'indépendance de ces États unis, c'était résister à la tyrannie d'un pouvoir dans le droit fil de ce que Jean Calvin avait encouragé dans les dernières pages de son Institution de la religion chrétienne. Faisant explicitement appel à Dieu, ces hommes, constituant le Congrès des États-Unis, entendaient bénéficier, eux aussi, de la libération que Dieu offre à l'égard de tous les pouvoirs oppressants. Dans cette situation qui était la leur, en 1776, comme pour le psalmiste auparavant, comme pour nous aujourd'hui, il s'agit non seulement de revendiquer un mode de gouvernance acceptable, mais bien plus que cela, exiger aussi que la justice puisse être exercée, que les conditions sociales et économiques respectent l'humanité de chacun, que l'éducation soit disponible pour tous, bref, tout ce qui fait la Constitution des États-Unis d'Amérique. Oui, Dieu nous sauve de ces formes d'oppression, de ces formes d'aliénation. Dieu nous sauve en nous donnant la force morale de résister à la soumission envers quelque ordre tyrannique que ce soit, ce que les doyens Gagnebin et Picon intitulent « la foi insoumise ». Au fond, c'est cette capacité à résister à ce que Philippe Séguin, en son temps, appelait la midridatisation des consciences, le fait de s'habituer peu à peu à des choses malsaines. Dieu sauve en donnant la force de briser les liens de l'oppression et pour maintenir vivace le bien le plus sacré que voulait soutenir Thomas Jefferson, l'honneur. Le troisième aspect que nous pouvons relever, c'est justement celui que les catéchumènes avaient en tête. Il est courant de dire que Dieu sauve de la mort. En fait, cela apparaît plus nettement dans d'autres psaumes qui utilisent l'image de la fosse dans laquelle le croyant risque d'être jeté par ses ennemis. Ici, il n'est question que des ennemis qui sont animés d'une haine violente, avons-nous entendu. Et je ne développerai donc pas ce point que nous reprendrons dans le cours de l'année voyez, je suis en train un peu de vous frustrer pour susciter du désir et l'envie de revenir prochainement. Parce que le salut de la mort, c'est au fond un point fondamental sur lequel se bâtit en partie notre éthique. Disons en tout cas de façon un peu lapidaire que ce troisième salut n'est pas le fait que Dieu nous épargne de la mort, si c'était le cas, ça se saurait, mais qu'il nous sauve de la peur que la mort peut engendrer, de l'angoisse existentielle qu'elle peut provoquer au point de nous tuer avant l'heure, comme le psalmiste l'évoque ici. Dieu nous sauve de la mort en s'évertuant à ce que ce ne soit pas la mort qui motive nos choix, nos manières d'être, nos engagements, notre politique. Alors, comme cela sera traité plus tard, dans le courant de l'année, et comme pour le Messie, ça sera inattendu, à l'imprévu, vous serez obligés de veiller et de prier et de venir chaque dimanche. Le quatrième aspect du salut concerne le sens de notre vie. À quoi bon vivre ? Et pourquoi se lever encore le matin ? Et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Autant de formules classiques qui sont autant d'aveux d'impuissance ou d'incompréhension. Dans un monde qui semble nous écraser ou mener sa route sans trop se soucier de nous, au fond, nous ne serions que quantité négligeable dans ce monde. Le monde est-il absurde ? Voilà la question. C'est une interrogation à laquelle Dieu propose une réponse, du moins une angoisse de laquelle Dieu nous sauve, en nous proposant des chemins de vie, ou mieux encore, des chemins de justice, comme cela est dit par trois fois dans ce psaume. C'est cette confiance dans le fait que Dieu nous aide à surmonter cette impression de non-sens ou de vie qui tourne un peu à vide. Dieu qui nous aide à surmonter le fait que nous ayons le sentiment d'une vie parfois routinière, où l'habitude devient mortelle, une vie qui n'a plus rien à offrir finalement, une vie qui n'a peut-être plus grand-chose pour nous enthousiasmer. Et peut-être s'agit-il de la confiance en ce Dieu qui nous fait accéder justement à de nouveaux chemins, des chemins qui nous font sortir de nos ornières, ou des chemins qui nous permettent de sortir enfin du rond-point de la vie sur lequel nous nous sentons coincés. Un peu comme dans cette histoire de Raymond de Vos, où on entre sur un rond-point et après il n'y a plus que des sens uniques, impossible de sortir du rond-point. Dieu serait justement celui qui ouvre de nouvelles voies. Dieu nous sauve de l'absurde en nous faisant cheminer. En nous faisant cheminer vers sa vérité, lisons-nous au verset 5. La vérité, en hébreu, ça se dit « emet » et ça évoque la fermeté, la solidité. En grec, c'est le terme « aletheia » qui exprime ce qui est dévoilé, ce qui est sorti de l'oubli. Et il me semble que Dieu nous sauve de cela, de l'absurde, en nous faisant cheminer entre ces deux pôles, finalement. À la fois la sécurité, ce qui est ferme, ce à quoi on peut se raccrocher, ce qui, enfin, ne nous file plus entre les doigts, ce qui, enfin, permet de donner à notre vie un peu de stabilité, une vie qui ne se dérobe plus sous nos pas, et puis en même temps, une vie qui révèle peut-être ce que nous n'arrivions plus à voir, un peu de sens, un peu de cette beauté, de cet émerveillement dont il était question tout à l'heure, cette beauté, cet émerveillement de la création qui révèle ce que Dieu entreprend. Dieu nous sauve de l'absurde en nous permettant de nous orienter loin des marécages d'une vie sans consistance et d'une vie qui serait en fait une impasse de sens. Dieu nous sauve en nous aidant à nous orienter au fil des rencontres et des découvertes que nous faisons, au fil des balises que nous découvrons sur le chemin que l'Éternel nous permet d'emprunter. Et puis, cinquième action de Dieu en notre faveur, peut-être la plus cruciale aujourd'hui, en cette semaine, Dieu qui nous sauve de la solitude. La solitude est aujourd'hui encore d'une actualité criante. Il suffit de prendre conscience du tout récent rapport de la Fondation de France, dont l'essentiel est en ligne sur le blog de notre paroisse, pour se rendre compte de l'importance que la solitude tient dans notre société. Quasiment 10% de la population française n'a pas eu plus de 3 contacts directs dans l'année qui vient de s'écouler. 4 millions de Français qui ne se réjouissent pas de cette situation. Ce ne sont pas 4 millions de personnes qui ont décidé de vivre en ermite. 4 millions de personnes qui subissent cette situation. Décidément, on peut dire que ni la télévision, ni la radio, ni Internet, ni tous les nouveaux moyens de communication nous sauvent de la solitude que seul le lien interpersonnel peut rompre, à vrai dire. De même que le psalmiste se plaint de la solitude qui le rend malheureux au verset 16, nos contemporains se plaignent, et ils ont raison de se plaindre, du vide affectif, du vide relationnel, du fossé qui se creuse avec l'entourage qui s'éloigne de plus en plus. Et ce peut être aussi bien une solitude en forme d'isolement physique, le fait d'être seul factuellement, que l'impossibilité d'avoir des échanges véritables. Vous savez, être seul au milieu d'une foule, mais d'être incompris. Personne n'est en mesure de pouvoir nous rejoindre dans ce que nous vivons vraiment. On peut penser à ces personnes qui, au fil des ans, ont perdu tous ceux de leur génération. Et ces personnes ne trouvent plus quiconque avec qui partager quoi que ce soit. Nous pouvons penser aussi à ces personnes qui aimeraient pouvoir communiquer, mais qui n'arrivent pas à se faire comprendre, donc, qui sont dans l'impossibilité de pouvoir partager leurs sentiments, ce qui compte vraiment pour eux, parce qu'il y a des expériences, des tranches de vie qui sont d'une extraordinaire difficulté à comprendre. De même qu'il y a des souffrances qui sont, dans un premier temps, tout à fait inexprimables et qui dépassent peut-être même l'entendement. On se souvient de ce qu'écrivait Georges Samprin dans « L'écriture ou la vie ». Revenir des camps de concentration, c'était quelque chose d'incommunicable. Personne ne nous croyait, enfin personne ne les croyait. Il y a des peines que l'on n'arrive pas à partager et avec lesquelles on vit seul. On a aussi des situations où des gens, par défaut de vocabulaire, par défaut d'habitude de conversation, se retrouvent seuls, totalement isolés. Et ceux-là sont jeunes, en général. Et bien de cette solitude, Dieu s'efforce de nous sauver également. En tournant son visage vers nous, comme le demande le psalmiste, ce qui signifie deux choses très concrètes qui nous concernent au premier chef. D'abord que nous ne sommes pas les victimes d'une indifférence absolue. Nous ne sommes pas transparents aux yeux de tout le monde. Nous avons du prix aux yeux de Dieu, lisons-nous dans le prophète Ésaïe. Ensuite, parce que Dieu nous intègre dans une famille spirituelle, celle que nous formons ici, celle avec laquelle nous sommes en communion sur toute la surface de la terre. Dieu nous intègre dans une famille spirituelle qui donne de l'amplitude à notre arbre généalogique et qui offre une descendance même à ceux qui n'ont pas d'enfants. Pouvons-nous comprendre, à travers cet appel à la fidélité de Dieu et au fait que de génération en génération, nos descendants se reposeront dans une paix qui sera signe de l'amour de Dieu. Dieu sauve de la solitude par son esprit d'adoption, qui nous apprend à le nommer Père, certes, mais qui nous aide aussi à voir un frère, une sœur, dans celui ou celle dont nous croisons la route. Cela signifie que nous ne sommes pas pour rien dans le salut que Dieu offre à l'égard de la solitude. Nous sommes les obligés des personnes seules, parce que nous sommes leur famille spirituelle. Nous sommes la famille spirituelle des petits baptisés, et ça c'est toujours agréable. Personne ne refuserait d'être la famille spirituelle d'un jeune enfant souriant tout plein. Nous sommes aussi la famille spirituelle de ceux qui sont âgés, de ceux qui ne vont pas bien, de ceux qui se sentent mal. Et c'est ainsi que Dieu sauve aussi, par cette présence que nous pouvons offrir. Dès lors, nous devenons la mémoire vivante de Dieu qui n'oublie aucun de ses enfants et qui fait œuvre de compassion et de bienveillance envers tous, dit le psaume. Cela signifie que Dieu suscite des individus et Dieu valorise des individus plutôt qu'une masse, une foule, mais il n'encourage pas l'individualisme. Le protestantisme, c'est l'histoire d'individus, pas d'individualisme. Ok ? Alors, je ne sais pas si je vous aurais convaincu sur le fait que Dieu sauve. Il y a au moins quelques aspects qui vous auront peut-être semblé crédibles. Mais reprenons cela dans une formule, finalement. Dieu sauve, et de quelle manière ? Eh bien, Dieu sauve, me semble-t-il, en faisant de chacun un individu, libéré de ses entraves, débarrassé de toute angoisse mortifère, vivant dans un monde plein de sens, où s'exprime la fraternité. Amen.